Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis, sur Radio Immo et Radio Territoria.
Eh bien voilà, je prends la suite de notre ami Fabrice Coustet qui était avec nos amis de Promotelec pour parler de rénovation énergétique, bien évidemment. Il est 17h32, on est toujours ici au congrès de l'Union sociale pour l'habitat, c'est le 83e, au parc national de la Beaujoire, par des expositions de la Beaujoire à Nantes. On a de la chance, il fait bon dehors, donc c'est presque un temps estival. Voilà, on fait un petit peu le parcours de la planète immobilière, des différents opérateurs qui, effectivement, bossent directement ou même indirectement avec le monde de ce qu'on appelle le logement social. Je vais saluer la présence de notre ami Stéphane Glucksmann qui est avec nous. Bonjour Stéphane.
Bonjour Sylvain.
Stéphane Glucksmann, directeur général adjoint de Citia Immobilier.
Tout à fait.
Merci d'être avec nous. Alors, on va mettre les pieds dans le plat tout de suite. Ça fait plusieurs années, presque 5 ans maintenant, que Citia Immobilier, qui est un acteur privé, administrateur de biens, syndic de copropriété, de transactions, capillarité nationale, l'acteur majeur de l'immobilier dans ce pays. Pourquoi Citia est allé vers le logement social et en quoi vous aidez-vous le logement social à opérer finalement la mise en copropriété, mais aussi l'accession sociale à la propriété?
Vous avez beaucoup de questions quand même, Sylvain. Je vais d'abord repréciser que surtout Citia, c'est le groupe Arche et que c'est surtout une entreprise familiale. J'insiste là-dessus parce que c'est tout l'ADN de notre entreprise, c'est d'être indépendant et d'avoir un président fondateur très actif dans la gestion de son entreprise. Et c'est à ce titre qu'un jour il s'est dit, connaissant bien le monde public, on pourrait intervenir parce qu'il y a une faille. C'est un monde, le monde des bailleurs sociaux est un monde qui vit en vase clos. Et il était temps d'amener un peu d'opérateurs extérieurs qui sortent de ce, comment dire ça, poliment et surtout politiquement correct. On ne va pas dire marigot, je ne l'ai pas dit, mais on sort de l'ensemble des bailleurs sociaux du monde un peu consanguin parce qu'on retrouve des filiales des uns et les filiales des autres qui travaillent les uns avec les autres. Donc nous, on arrive, on est tout jeune, mais étant tout jeune dans ce métier, on n'a aussi pas d'a priori et donc on est très ouvert à s'adapter à la réalité et aux besoins du marché.
Alors, qu'on comprenne bien, vous, vous savez mettre en copropriété des bâtiments qui sont donnés en bloc. Autrement dit, je précise, un immeuble qui est géré en bloc, c'est-à-dire avec un seul propriétaire exploitant qui est l'OPH ou le bailleur social, souhaite opérer dans cet immeuble un accès à la propriété. Donc il va proposer à ses locataires d'acheter le bien qu'ils occupent.
Tout à fait.
Vous pouvez vous en occuper.
Nous faisons ça. Nous faisons ça.
Mais,
souvent,
quand vous le faites aussi le règlement de copro.
Oui, enfin, souvent, le bailleur social, il a sa propre structure de commercialisation pour vendre à ses occupants. Et parfois, il n'arrive pas à trouver toujours les occupants pour acheter. Ou parfois, il fait une opération neuve. Et sur son opération neuve, il a des lots qu'il souhaite mettre sur un marché plus privé. Et c'est là où nous, on peut intervenir par effectivement, vous disiez tout à l'heure, capillarité du réseau. On va rappeler, c'est plus de 250 agences et je ne parle pas des autres réseaux que nous avons, puisque Citia, ça fait partie d'Arche, mais également Century 21, Nesten, Guioquet et il me manque La Forêt, voilà. Et donc, lorsque l'on propose une offre de commercialisation à un bailleur social, on est complètement perméable sur les autres réseaux. Et donc, on peut aller... ça fait près de 3000 points de vente en France.
3000 points de vente en France. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, le terrain de jeu, finalement, il est national. Autrement dit, n'importe quel type de bailleur social pourrait, par exemple, s'il veut opérer pour la mise en copropriété, comme, par exemple, l'accession sociale, puisqu'on a des bailleurs qui ont leur organe de distribution éventuellement, mais... Il est possible aussi que d'autres bailleurs sociaux souhaitent solliciter des sociétés pour vendre leurs biens. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser les réseaux de la galaxie d'Arche éventuellement pour opérer, ou est-ce que la structure représentée pour accompagner les bailleurs sociaux opère complètement les métiers?
Alors, c'est-à-dire qu'on a ISH, qui est notre structure, effectivement, qui est le point d'entrée des bailleurs sociaux et qui va après faire la distribution de la balle au mieux, c'est-à-dire aux cabinets qui sont de proximité, aux cabinets qui ont les meilleurs résultats. Mmh. Et on va donc décider à qui on attribue le programme que l'on pourra avoir à commercialiser. Et puis l'autre partie importante, c'est la mise en copropriété. Fort d'une expérience de plusieurs dizaines d'années dans la gestion de copropriété, aussi bien de copropriété ancienne que de copropriété récente, voire neuve, nous pouvons intervenir du début, c'est-à-dire du règlement de copropriété, au calcul des charges et à la mise en copropriété. Et ça, il y a un vrai savoir-faire sur le sujet.
Alors, justement, quand on voit l'activité des bailleurs sociaux, on se rend compte que les syndics de copropriété classiques, hein, privés, en termes de pricing, d'opérateurs, ne sont pas toujours sur les mêmes registres, puisque le bailleur social veille, par exemple, à ce qu'il n'y ait pas d'explosion de charges lorsqu'il donne l'accession à la propriété. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, vous avez monté avec ISH, sur l'opération bailleur social, un modèle économique spécifique?
On va toujours, mais que ce soit pour une copro privée comme pour une copro, entre guillemets, qui vient du public ou du social, on a toujours ce regard sur les charges. D'accord. Ce qu'il y a, c'est que souvent, à la mise en copropriété, le bailleur social, si c'est un bâtiment existant, a déjà contracté. Et donc, il a déjà ses opérateurs.
Donc, vous reprenez?
On reprend, bien entendu. On adapte et on ne fait rien sans le bailleur social. C'est notre... Voilà, c'est avec lui que l'on travaille. Mais la mise en copropriété, c'est important d'expliquer, notamment lorsque l'on a des locataires qui changent de statut, leur expliquer ce que ça comporte, les nouvelles responsabilités, puisque quand on passe de locataire à copropriétaire, on embrasse de nouvelles charges, mais de nouvelles responsabilités. Et donc ça, notre rôle est de les accompagner, de leur expliquer et de participer très en amont, justement, sur ces calculs de charges, qu'il n'y ait pas de surprise, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un copropriétaire nouvel acquéreur et qui arriverait, qui vient d'avoir son prêt et qui se rendrait compte que effectivement il a des dépenses non prévues.
Donc ça veut dire que finalement vous veillez, vous faites attention à ce que quelque part vous avez pris soin de conserver les mêmes acteurs historiques de l'immeuble qui était géré puisqu'il va être mis en copropriété et que vous arrivez à équilibrer les charges. Parce qu'on a des bailleurs sociaux qui sont très vigilants sur les charges. Est-ce que par rapport à l'activité habituelle, vous baissez par exemple vos honoraires sur le syndic? Ou est-ce que vous avez une offre spécifique?
Non, pas
est-ce
vraiment.
Est-ce qu'il y a une distinction? Je vais compléter ma question. Est-ce qu'il y a une distinction dans la gestion d'une copropriété diffuse classique, en termes de pricing, par rapport à une prise de copropriété qui vient du monde du logement social?
On regardera pour être au mieux disant. Ce qui est important, c'est effectivement, les missions ne seront pas tout à fait les mêmes. Il y aura une grande phase de préparation, d'accompagnement. Et ça, c'est important et ça nécessite, il y a un gros travail là-dessus. Donc ça mérite rémunération. Et notre souci, c'est d'apporter le meilleur service. Et de la même façon que l'opérateur local peut avoir un choix d'une entreprise qu'il connaît bien mais qui est locale et sur lequel il pèse en poids un certain poids, mais nous, on a des opérateurs nationaux par le volume des 700 ou 800 000 autres.
Donc, ce que je comprends, c'est que grâce au modèle, entre guillemets, industriel, hein, c'est une image, et de la massification de votre offre, et donc de pression aussi sur des achats de groupe que vous faites, par ailleurs, parce que vous êtes une puissance de tir et de consommation qui est considérable, vous permettez, vous avez la possibilité d'être sur des approches budgétaires.
On peut être force de proposition, voilà.
Sur le logement social, qui donc est compatible avec la clientèle.
Tout à fait.
D'accès à la propriété. Parce qu'on sait que c'est des moyens, on sait que ce sont des ménages à faible revenu qui accèdent à la propriété. C'est une très bonne chose, mais vous savez vous adapter.
Notre souhait, c'est la pérennité. Donc, quand on prend une copropriété, ce n'est pas pour la perdre un an ou deux après, parce que la copropriété est devenue en difficulté, que les copropriétaires ne peuvent plus régler. S'ils ne peuvent pas payer leurs charges, ils ne payent pas non plus nos honoraires. Donc, notre souhait, c'est de continuer à fonctionner avec eux et s'inscrire dans la durée. Et pour cela, il faut apporter, un, le meilleur service, et deux, adapter notre service, effectivement, peut-être plus de réunions d'information en amont. Pas faire une assemblée générale où on envoie une convocation point à la ligne. Envisager des réunions très en amont pour expliquer
comme le projet. Comme vous l'avez fait quand on a réuni, par exemple, les conseillers syndicaux pour les informer, par exemple, sur les enjeux de la rénovation énergétique. Je rappelle que vous aviez connecté, bon, puisque je l'ai animé, donc forcément je m'en souviens, pratiquement 140 000 copropriétaires dans plus d'une centaine de villes.
Oui, tout à fait, 170 villes de mémoire. Oui. C'était important d'informer. Plus on ira, le problème des syndics, si je peux dire, s'il y a un problème des syndics, c'est le manque de communication auprès de nos clients. Il est vrai qu'il est difficile pour un syndic de savoir qui est son client. Est-ce que c'est la copropriété ? Ça, c'est l'aspect juridique. Le client, c'est la copropriété. Mais une copropriété n'est composée que de copropriétaires. Donc, il ne faut pas les ignorer. Et plus on communiquera vers les copropriétaires, plus on ira vers eux en information, moins on aura de soucis et plus ils comprendront votre démarche.
Dernière question. On voit dégradation du pouvoir d'achat. Alors, à cause d'une inflation galopante, on sera quasiment entre 7 et 10% de taux d'inflation. Une augmentation corollaire des taux d'intérêt qui a désolvabilisé une bonne partie des primo-accédants. D'ailleurs, c'est là qu'on voit que l'accession sociale peut être intéressante, puisque avec des décotes, avec une approche prix qui est beaucoup plus intéressante, on permet à des millions et des milliers de Français d'accéder à la propriété avec un accompagnement réel. Est-ce que ça impacte votre activité aujourd'hui ou pas ?
Bien sûr que...
Les hausses des coûts de l'énergie, des matières premières ?
Bien entendu, il faut faire beaucoup de pédagogie parce que le principe d'une copropriété classique, c'est que j'ai des copropriétaires qui sont là depuis 35 ans, 40 ans, depuis la semaine dernière. Tous n'ont pas acheté ils ont acheté le même appartement, mais pas le même prix. Tous n'ont pas les mêmes charges financières. Et donc, ils ne sont pas susceptibles d'avoir le même pouvoir d'achat de travaux ou pouvoir d'achat, tout simplement, du règlement de leurs charges. Et donc, là-dessus, il faut une approche très fine. Et c'est pour ça que nous avons une partie transaction, bien sûr, dans nos cabinets. Et cette partie transaction est la mieux placée pour pouvoir vendre les appartements dans nos copropriétés, parce que nous sommes ceux qui les connaissons le mieux et qui sommes susceptibles de savoir si on est dans un niveau de charge normal, voire supérieur, parce qu'il y a une particularité sur l'immeuble, et de l'expliquer. Une fois de plus, il faut durer et nous cherchons la pérennité dans les rapports avec nos clients.
Je pense que c'est là une belle phrase de conclusion. La pérennité dans la durée, effectivement, qui permet de consolider aussi la relation de confiance. Et Dieu sait que dans l'immobilier, on en a bien besoin.
Tout à fait.
Merci Stéphane Glucksmann.
Merci.
Directeur général adjoint de Citia Immobilier, qui maintenant opère dans le monde du logement social depuis plusieurs années. D'ailleurs, je constate avec beaucoup de plaisir que d'autres opérateurs privés immobiliers vous ont emboîté le pas, comme quoi vous avez été pionnier en la matière.
A priori, ça intéresse d'autres.
Voilà, on est d'accord. Merci Stéphane Glucksmann. Très bon congrès. On se retrouve dans quelques instants.
Le 83e congrès HLM de l'Union sociale pour l'habitat, du 3 au 5 octobre 2023 à Nantes, en partenariat avec Procivis sur Radio Immo et Radio Territoria.